Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs. Votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. L'année académique 2018-2019 s'est clôturée le mercredi 31 juillet dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Des milliers de diplômes ont été lancés sur le marché de l'emploi dans différents domaines. Alors, quel bilan faites-vous de l'année académique 2018-2019 dans votre milieu et quelles sont les perspectives d'avenir pour la prochaine année académique? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission. Polydor Basunga est à la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Martin Sebojangwe. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos.
Bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre contribution à cette émission?
Merci, JR. En fait, nous tenons d'abord à encourager les autorités de l'enseignement supérieur universitaire du fait que cette fois-ci, on constate qu'on est en train de respecter la durée de l'année académique. Et ça, on est plus au niveau où on a des années de la suite comme cela a été le cas dans les années passées. Et par rapport à ce qu'on a dit, ce que nous attendons, comme amélioration, nous disons, même si on a respecté les délais, mais en analysant personnellement dans ma province, on se demande ce qui vient déterminer les études, des gradués et des licenciés. Ils ont quel bagage et qu'est-ce que la société ou le pays peut attendre d'eux. Pourquoi je l'ai dit hier? Parce que aujourd'hui, on constate dans ma province que l'enseignement supérieur universitaire est devenu du business. Partout, même une seule maison est à la fois boutique, elle est à la fois hôtel, elle est à la fois église, elle est à la fois université. Des universités qui naissent partout comme des champignons et qui fonctionnent sans respecter les normes requises. C'est très grave et cela au vie et aussi de nos dirigeants. On a toujours vécu chaque début de l'année académique, on dit telle université n'est pas viable et doit fermer ses portes. Mais toutes les universités qui ont été fermées, il y a plus de 5 ans, elles sont toujours opérationnelles. On se demande pourquoi nos autorités doivent être en train de distraire les gens en disant on ferme telle université, telle institution supérieure. Vous allez vous souvenir qu'il y a un temps où le ministre de l'enseignement supérieur a fermé plus de 50 d'institutions universitaires et universités dans la province du Sud-Kivu. Mais toutes ces universités et institutions supérieures JR continue à fonctionner aujourd'hui. C'est un problème purement sérieux dans notre pays. Et à part ça, on produit des finalistes chaque année. Mais pour quelle finalité? Des milliers et des milliers de licenciés, des milliers et des milliers de gradués, mais qui n'auront pas d'emploi, comme d'habitude. Et ce sont ces mêmes gens qui deviennent des
agents. Oui, Amos, là vous évoquez la question de la viabilité en termes des infrastructures, des institutions supérieures et universitaires aujourd'hui. Nous avons, suivi une opération de viabilisation de toutes ces institutions qui a été lancée par plusieurs ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais aujourd'hui, si à quoi vos propos, c'est comme si le résultat est loin d'être celui escompté.
Tout à fait, parce que hier, comme vous venez de le dire, non seulement les infrastructures, mais si vous allez arriver dans une université ou un institut supérieur, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de professeurs qui ont quand même un niveau qui va permettre aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que c'est tout un des autres sérieux là qu'on est en train de vivre dans ma province. Et je suis de ceux qui pensent que même à travers la République dans notre province, C'est la même réalité. Et on veut nous dire qu'on veut améliorer les choses. Moi, je pense que cette fois-ci, le nouveau ministre qui sera nommé, comme on a déjà un nouveau président de la République, et si du moins ce qu'il nous a promis, qu'il vient réellement changer les choses, c'est de demander à ce nouveau ministre de prendre les choses entre ses mains et d'abord mettre fin à toutes ces universités qui fonctionnent au moment où elles ne respectent pas les normes requises. Parce qu'on ne sera pas en train de produire des étudiants, mais qui n'ont rien dans leur capacité. C'est très grave et dangereux.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Amorce. Si je comprends bien pour vous, la RDC compte plusieurs institutions d'enseignement supérieur dont un grand nombre sont en difficulté et nécessitent l'intervention des différentes parties prenantes. Et heureusement pour vous, donc, le Premier ministre est déjà là, le prochain gouvernement sortira et vous demandez à ce que le prochain ministre de l'enseignement puisse prendre ces problèmes à bras le corps en ce qui concerne les infrastructures, la viabilité de ces institutions qui, au fait, dans la plupart des cas, ternissent l'image parfois de ces institutions parce que à la fois ces établissements sont les soirs des églises des réveils, les matins c'est une institution de l'enseignement supérieur et l'après-midi c'est un centre de récupération. Finalement on ne sait pas et c'est quoi exactement. Donc ces problèmes des infrastructures se posent avec acuité et vous avez remarqué que depuis un certain temps la réforme a été lancée, mais cette année académique qui vient de s'achever, vous projectez pour l'avenir que vraiment un regard soit mis sur cette question. Merci beaucoup Amos d'avoir appelé de Bukavu. Une fois encore nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne notre invité Marcel Ilungaleu. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour Gérard.
Vous êtes ministre de l'Industrie et en même temps ministre intérim au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Vous confirmez que l'année académique 2018-2019 s'est bel et bien clôturée le mercredi 31 juillet dernier, sur toute l'étendue de la République.
Tout à fait officiellement, la clôture de l'année académique 2018-2019 a eu lieu le 31 juillet de l'année 2019. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Alors, on sait tout de même que nos universités et instituts supérieurs font face à plusieurs défis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les réformes amorcées par vos prédécesseurs ou par les gouvernements de la RDC, cette réforme a donné des résultats qu'on attendait en termes de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire?
Les réformes ont été bel et bien entreprises par mes prédécesseurs. Il faut noter que quand il s'agit des réformes, ça s'est fait d'une manière progressive. Et ils ont amorcé, bien sûr, mais cette réforme continue. On doit aller jusqu'au bout de la réforme pour atteindre le résultat escompté. Je suis persuadé, je suis aussi convaincu comme vos auditeurs, et les institutions universitaires fonctionnent dans de très mauvaises conditions, mais on ne va pas baisser les bras. Je crois, comme l'un de vos auditeurs l'a dit, le gouvernement prochain devra prendre le taureau par les cornes pour améliorer la qualité de fonctionnement de toutes ces institutions supérieures et universitaires, mais aussi et surtout lutter contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans ces institutions-là.
Oui, vous avez reconnu, monsieur le ministre, que nos universités font face à plusieurs, à multiples défis auxquels sont confrontés donc ces établissements. Alors, d'entrée de jeu, la question, par exemple, des infrastructures. On sait tout de même que vos prédécesseurs ont mené des opérations de viabilisation de ces institutions. Où en est-on à ces jours?
Oui, il y a certaines institutions qui fonctionnent dans des établissements, disons dans des bâtiments qui sont tout à fait acceptables, et il y a d'autres qui sont bien équipés avec un corps professoral adapté, mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas viables, hein, quand bien même elles ont été agréées, et c'est ainsi que je le disais, le nouveau ministre devra prendre le taureau par les cornes, parce que quand une institution n'est pas viable, il constitue un danger pour nos enfants. Et comment voulez-vous, comme l'un de vos auditeurs l'a dit, le matin c'est l'église, le soir c'est un établissement, et vous avez d'autres établissements où vous n'avez même pas un seul chef des travaux, pas même un seul professeur. Ces genres d'établissements ne sont voués pratiquement à l'échec. Donc je crois que ce que vous avez dit est tout à fait réel, mais il y a des réformes, mais il faut qu'on continue. On ne va pas baisser les bras. Alors, on va continuer avec toutes ces réformes qui ont été entreprises pour qu'on arrive à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire.
Vous avez parlé de la clôture de l'année, la clôture officielle de l'année académique 2018-2019. Est-ce qu'en ce moment, on peut dire que finalement cette problématique de la régularisation du calendrier académique a trouvé quand même solution?
Tout à fait. Quand on clôture à la date prévue par la note instruction 020, c'est pour que l'année académique qui va commencer puisse aussi commencer à temps. Et je le dis quand j'ai clôturé à l'université de Kinshasa, qu'il n'y aura pas d'autocollation ou de collation en deuxième session. C'est pour que nous puissions nous conformer tous aux dispositions telles que dictées par la note d'instruction et par les instructions académiques, et qu'on puisse respecter le timing tel que prévu des années. À ce moment-là, on va redevenir normaux dans le cadre de fonctionnement de nos institutions universitaires et supérieures.
Alors, si vous le permettez, monsieur le ministre, on va faire les tours d'horizon avec les auditeurs ainsi que d'autres experts que nous avons pu associer dans cette émission. Question de vous faire une idée sur des réalités sur le terrain. On va accueillir le professeur Rigobert Moukeni, qui est recteur de l'IFASIC. Bonjour, professeur.
Bonjour, JR.
Alors, à ces jours, quelle est la difficulté que traverse l'Institut facultaire de sciences et d'informations et de communication, IFASIC en sigle? Contrairement, parce que c'est l'Institut qui a organisé également la clôture de l'année, de cette année 2018-2019. Quelles sont les avancées qui sont déjà réalisées et quels sont les défis qui restent à relever?
Bon, en ce qui concerne, c'est vrai, nous avons clôturé l'année le 31, comme le recommandent les instructions académiques. Nous avons clôturé l'année avec un certain nombre de problèmes que nous avons résolus l'année passée, mais il y a aussi des problèmes qui restent à résoudre. Par exemple, l'IFASIC, c'est un institut essentiellement technique et technologique. Donc, nous avons besoin des infrastructures dans ce sens-là, c'est-à-dire un studio école qui fonctionne très bien, avec du matériel de pointe. Nous avons un journal école qui doit bien fonctionner avec du matériel de pointe. C'est ça que nous allons améliorer pour l'année prochaine. Et puis, il y a l'éternel problème des infrastructures. Vous êtes un ancien de l'IFASIC, vous savez que nous sommes toujours en train de construire des bâtiments pour pouvoir loger au mieux nos étudiants. C'est donc les deux problèmes essentiels qui nous restent à couvrir, l'infrastructure du point de vue du matériel de pointe pour nos studios, pour notre journal école, et puis pour le laboratoire multimédia, parce que nous avons un département multimédia, et également tout ce qui concerne les infrastructures des salles de cours, etc.
Alors, parce que vous avez parlé des infrastructures, l'épineux conflit entre l'IFASIC et les terrains de la RTNC vers Beauvais, où en est-on à ces jours? Cette question qui divisait quand même beaucoup de gens, ces terrains qui a été spolié.
Ça, nous avons oublié complètement ça. L'État nous a donné un terrain, mais le terrain se trouve du côté de Kimbondo. Je ne vois aucun étudiant en train de vouloir aller là-bas, même si nous avons beaucoup d'argent pour construire là-bas. Nous pensions, et c'est je crois le dossier que nous allons introduire avec le prochain gouvernement, nous pensions à un terrain qui est vide, qui est juste en face de nous, le fameux terrain de l'ONPTZ.
De la CPT.
Comme c'est l'État et l'État, peut-être que si ils nous accordaient ce terrain-là, nous pouvons construire sur ce terrain-là. C'est juste en face de nous. Bon, si le prochain gouvernement peut arriver à nous donner ce terrain-là, ça sera une bonne affaire.
Merci beaucoup. Alors, comment avez-vous évalué l'année qui vient de se clôturer sur toute l'étendue de la République?
au plan de la formation, au plan académique, il est vrai que bon, nos étudiants, il faut encore leur donner des coups de pouce tout le temps. Mais cette année ici, nous avons fait les délibérations de manière correcte, telle que prévue dans le vademécum. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de réussite, c'est vrai, pour les étudiants qui ont travaillé, mais il y a eu énormément d'échecs aussi. Ce qui nous fait plaisir, c'est que de plus en plus, chaque année, nous avons un peu plus d'étudiants qui s'efforcent de réussir en première session. Et pour cette année ici, par exemple, on a eu une bonne quatre-vingtaine de qui ont travaillé en première session, en deuxième licence, et qui ont eu leur diplôme. Bon, chaque année, il y a une sorte d'évolution, c'est-à-dire que les étudiants prennent de plus en plus conscience qu'ils doivent travailler, et il y a une émulation qui fait que la plupart d'entre eux se battent pour terminé en première session.
Alors, juste une question avant de nous séparer avec vous. La problématique de la performance des institutions d'enseignement supérieur et universitaire à RDC pour que ces institutions arrivent à se placer sur la liste et là dans des très bonnes positions au niveau de l'Afrique, pourquoi pas au niveau mondial. Quels sont les défis qui restent à relever?
Comme l'a dit Monsieur le ministre, ça c'est une problématique progressive. C'est-à-dire c'est progressivement que nous pouvons réaliser un certain nombre de réformes qui feraient que nos institutions universitaires pourraient atteindre des performances. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait quelque part un preneur en charge. Qui prend en charge aujourd'hui la formation dans nos universités ? Dans les universités publiques, nous avons toujours fonctionné jusqu'ici avec les moyens de bord. Or, une université, pour qu'elle soit performante, il faut absolument que cette université-là puisse avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre cette performance-là. Tant que l'État ne va pas disponibiliser suffisamment de moyens, on ne pourra rien faire du tout.
Merci beaucoup, professeur Rigobert Mokini. Nous rappelons que vous êtes recteur de l'IFASIC. Alors, on revient à vous, monsieur le ministre. Comment réagissez-vous? Parce que c'est ces problèmes d'abord de terrain de l'IFASIC qui posent problème. Et la question de la performance de nos institutions qui reste également un défi énorme à relever.
Oui, tout à fait. En ce qui concerne le terrain, comme l'a dit votre interlocuteur, plus qu'on va plus loin, plus les étudiants n'auront pas cette volonté d'aller là-bas pour suivre les enseignements. Je crois qu'il doit continuer dans le même sens qu'il venait de dire pour obtenir un terrain à un endroit qui est tout à fait acceptable. Alors, en ce qui concerne les défis, il faut reconnaître que nous devons faire un effort pour qu'on puisse procéder à l'application de l'assurance qualité dans tout notre système éducatif. Ça, c'est un problème réel. Nous devons aussi nous adapter par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire nous devons rendre l'effectivité de la réforme du système LMD. Et en d'autres, aussi, nous devons aussi améliorer les conditions existentielles de tous les membres de la communauté étudiantine, en commençant d'abord par la promulgation par le chef de l'État de la mise en application du statut particulier du personnel de l'ESU, et aussi appliquer la loi cadre dans ses dispositions relatives aux élections des recteurs et des directeurs généraux. J'ai suivi dernièrement ici, il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas mécanisés, il faut aussi la mécanisation et le réajustement de salaire à prime. Tous ces agents au grade réel de chacun. Et il y a eu des malaises dernièrement, là, en rapport avec le manque à gagner, qui a résulté de l'imposition du taux de 920 francs congolais pour un dollar américain. Nous avons fait l'effort, c'est-à-dire le gouvernement, pour payer le manque à gagner de l'exercice 2017-2018. Mm-hmm. Et maintenant, nous devons encore faire face à ce même manque à gagner pour l'exercice 2018-2019. C'est un problème. Il y a aussi le remboursement du trop perçu sur les crédits véhicules des enseignants. Donc, dès qu'on améliore les conditions existentielles de tous les membres de la communauté étudiantine universitaire, ça va permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement. Et c'est à ce moment-là que chacun va fournir le meilleur de lui-même pour que nous puissions aller de l'avant et atteindre les niveaux qu'ont atteint d'autres pays et prétendre être classé parmi aussi les universités les meilleures à travers l'Afrique et le monde.
Oui, au niveau des déficits d'infrastructures, il y a également ces problèmes des bibliothèques et des laboratoires.
Tout à fait.
Il faut vraiment s'y pencher.
Je voudrais saluer, disons, l'intervention du chef de l'État qui a instruit le ministre de l'ESU de prendre toutes les dispositions avec une firme espagnole pour doter nos universités et nos instituts supérieurs des laboratoires. Là, c'est déjà un pas. Et si nous arrivons à concrétiser ce projet, nous allons aussi améliorer la qualité de notre enseignement. Aussi, il y a la gouvernance. Il faut qu'on améliore la gouvernance académique, administrative et financière, y compris même la gouvernance patrimoniale. Donc tout ça, ça doit être amélioré dans notre système éducatif pour que les choses avancent au mieux. Dans le cas contraire, on sera en train de continuer à se lamenter pour rien. Et comme le monsieur de l'IFASIC l'a dit, l'État va prendre ses responsabilités pour doter toutes ces institutions des moyens conséquents pour qu'ils puissent fonctionner normalement. Et là, c'est le souci du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Voilà, on va écouter, si vous le permettez, à nouveau, donc cette deuxième série des auditeurs, des intervenants, Jérémy qui est à Lubumbashi, Évariste, dans la ville de Mbujimayi. Jérémy, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur JR, bonjour également à Son Excellence Monsieur le Ministre qui est invité avec vous. Je pense que Monsieur JR, de la démagation parce que j'ai eu un peu la chance d'évoluer dans plusieurs institutions, que ce soit universitaire, tout comme Institut supérieur et IEC, hein. Mais je constate qu'il y a à boire et à manger. Durant les 12 années que j'ai eu à passer dans ces différentes institutions, en tout cas, les constats sont totalement amers. Pourquoi je l'ai dit? Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, bien que l'année a bien fini, peut-être dans d'autres institutions, mais quand vous passez dans certaines institutions, vous avez des larmes aux yeux, vraiment, c'est vraiment misérable. Comment voulez-vous, par exemple, M. Gérard, une institution de l'État avec des professeurs à la hauteur, une institution où les infrastructures vraiment ne sont pas présentées, même quand on a des visiteurs. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez à l'ISP de Lubumbashi, il y a des institutions sanitaires, des installations sanitaires plutôt, qui sont monnaies. C'est-à-dire, un étudiant qui doit aller aux installations sanitaires, il doit payer. C'est dommage pour un État grand qui se fait grand. De trois et de deux, je pense qu'il est envisageable. Il est plus que impérieux d'envisager les troisième cycles au jour d'aujourd'hui. Ça, je l'interprète.
Oui, mais Jérémy, s'il vous plaît, vous venez de suivre quand même le professeur Rigobert Mukeni, qui évoquait le partenariat, la prise en charge par des firmes capables de pouvoir, au fait, résoudre quelques défis au niveau des institutions. C'est comme ça, dans la mondialisation, que les choses marchent.
Et alors, monsieur Gérard, je pense que pourquoi je parle du troisième cycle aujourd'hui? Je vais en arriver là.
Parce que organiser un troisième cycle avec quelle infrastructure? Vous demanderez par exemple aux instituts supérieurs universitaires ou encore d'autres ISC d'organiser le troisième cycle. Mais avec quelles infrastructures?
Oui, parce que, monsieur Gérard, on n'a pas d'assistants aujourd'hui. Des assistants qui sont en dessous de la moyenne. Dans le cas où sont partis les bonnes habitudes qu'on avait, pour être assistant, il faut distinguer au moins. Mais aujourd'hui, parce que votre père est professeur, il assure la continuité, il prépare son fils pour lui succéder. Ce n'est pas normal. Je pense que le troisième cycle aujourd'hui, il faut remettre à niveau tous ces assistants qui se disent assistants. Ça ne va pas. Et puis vous avez, monsieur JR, quelque chose. Et monsieur, je viens vous dire, vous avez ici des institutions où peut-être au jour d'aujourd'hui, l'assistant n'arrive pas à assurer les cours correctement. Il y a des fautes. Dans un assistant qui a mis deux phrases avec trop de fautes. Et c'est vraiment inconcevable. Je pense que je suis en train de préparer un peu un livre là. Je pense qu'il faut au jour d'aujourd'hui mettre des inspecteurs pour contrôler un peu nos institutions supérieures. à un diplômé au niveau secondaire. Ça ne va pas au jour d'aujourd'hui. Il y a à boire et à manger dans ce secteur. Je, vraiment, nous demandons à notre chef de l'État d'instruire un peu au nouveau ministre qui aura en charge vraiment l'éducation, donc c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire qui aura en charge d'ouvrir d'un le bon. Sinon, il y a un essai total. Vous avez au jour d'aujourd'hui, même les textes qu'on fait ici. Il n'y a que les places. Il n'y a pas un contrôle accentué pour voir pourquoi on ne veut pas mettre de côté tout ce qu'il y a comme plagiat dans le travail de mémoire et dans le travail de fin de cycle. Je pense qu'il faut aujourd'hui dire que quand on a terminé la licence, on n'est pas à même d'assurer les cours correctement.
Merci beaucoup. Voilà. Jérémy, considérez cette émission comme un vade-mecum que nous sommes en train de préparer pour les futurs ou les prochains ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors Évariste, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Voilà, il y a le coup de vent par rapport à votre ligne, Évariste, on ne saura pas vous garder. Alors Julien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Julien.
Oui, bonjour JR. Ça fait un bon moment, vous allez bien?
Oui, et vous Julien?
Merci. Écoutez JR, quand on parle de l'université, je crois que je suis parmi les premiers intéressés. Moi j'ai fini l'université en 96, donc si on fait les calculs, je crois que ça fait 23 ans. Hein. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, lorsque je retourne à l'université, pour discuter avec des professeurs, avec des doyens de faculté, moi c'est le droit qui m'intéresse particulièrement, je me rends compte que l'université en fait n'arrive pas, ou bien ne veut pas, ou bien n'arrive pas, je ne sais pas quelle en est la cause, d'assumer son rôle de formation des cadres de conception. Parce que moi je parle de la situation de notre pays. Okay? Prenons la faculté de droit parce que moi je suis un juriste. Lisons ensemble la loi cadre sur l'enseignement supérieur et universitaire lorsqu'elle vous parle de la recherche scientifique. Elle vous parle d'une recherche de nature à transformer la société. Vous comprenez? Mais quelle est la place de la recherche scientifique dans nos universités? Quelle est la place de la recherche scientifique par rapport aux problèmes que nous connaissons avec nos lois, avec notre droit, ici en République démocratique du Congo, dans les facultés de droit? Je suis allé dans plusieurs facultés de droit. Imaginez-vous proposer des sujets de débat, des sujets de recherche, on me rétorquera que l'université est apolitique. Ben, écoutez, mais je crois que l'université doit être le porte-étendard de la science, le porte-étendard de l'innovation, le porte-étendard, je crois, de tout ce qui a comme piste de solution par rapport à ce que nous avons comme problème dans notre pays. Sinon, à quoi servirait l'université? Délivrer les diplômes dans le délai, c'est très bien. Respecter le calendrier académique, c'est très bien, parce que moi, je me rappelle que 2-3 ans après, moi, j'ai fini l'université, il y a des années qui étaient assez
trop élastiques, qui prenaient parfois 2 années civiles, oui.
Mais oui, maintenant, si on arrive à respecter tout ce délai-là, c'est très bien. Mais il faut qu'on mette aussi du contenu dans la matière. Je vois des jeunes stagiaires dans les cours et tribunaux, des étudiants en droit qui viennent suivre les audiences, qui voient comment ça se passe sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'ils nous partent avec ça, après ça?
Oui, mais Julien, là, ce n'est pas le problème de gouvernants, c'est ces questions de corps professoral, ceux qui sont à la Poukine, par exemple, ou encore d'autres associations des professeurs d'université, pour en discuter. Il y a la loi cadre qui parle même des conseils supérieurs des universités, pour discuter de cette question. Vous ne pensez pas que c'est l'institution habilitée à pouvoir traiter ces genres de questions?
Oui, bon, moi je ne voudrais pas remettre en cause la gouvernance. La gouvernance, elle accompagne. Elle accompagne l'université, bon déjà qu'elle a fait un bon travail en la remettant dans le respect des calendriers. Mais moi je voudrais parler du rôle de l'université justement, du corps professoral, du corps enseignant, de l'étudiant qui sort de l'université. Parce qu'aujourd'hui moi je suis tenté de demander à nos professeurs de droit, est-ce qu'ils sont fiers de ce que nous produisons comme droit en République démocratique du Congo? Est-ce qu'ils sont fiers de nos magistrats qu'ils ont formés? Est-ce qu'ils sont fiers lorsque tout le monde dit que le juriste a tué ce pays? Oui, et l'université, mais... Moi, j'essaye, d'une expérience personnelle, d'approcher l'université par rapport à ces questions-là. La faculté de droit de l'université de l'UNIQIM, la faculté de droit de l'université
de Lubumbashi ou encore
d'Excellence. La faculté de droit de, quoi ça, ULK. Encore que les sites sont rudimentaires, parce qu'à partir déjà d'un site d'une université, on peut franchement, en interaction, discuter, proposer, suggérer. Mais il y a une telle pauvreté que je me demande finalement, est-ce que l'université, le corps professionnel, a-t-il conscience de son rôle de former des cadres de conception? Nous en avons besoin. Non seulement des ingénieurs, il n'y en a même pas beaucoup déjà les ingénieurs, mais les médecins, les juristes. Ben, écoutez, tout ce dont ce pays a aujourd'hui besoin doit être planifié. Et c'est l'université, justement, avec tous ces services qui entourent, vous venez d'en parler, justement, de planifier et puis de donner de la matière, de donner de la consistance.
Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Julien, d'avoir contribué dans cette émission. On va prendre Évariste avant de retrouver notre invité, Marcel Ilunga-Léo, ministre par intérim à l'enseignement supérieur et universitaire. Évariste, vous êtes en Bougimaï. Bonjour, je crois que la ligne s'est nettement améliorée. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, Pierre. Merci beaucoup, Pierre, de m'avoir passé la parole. Allô, vous m'entendez, Pierre?
Oui, allez-y, vous avez la parole.
Ok. Je voulais dire ceci, Pierre. Concernant les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, cette fois-ci, après la nomination de ces ministres-là, il faut qu'on nomme d'abord quelqu'un intègre, quelqu'un qui a une probité morale. Quelqu'un qui a d'abord la voix d'autorité. Parce que ce qui s'était passé récemment dans notre province du Kasaï oriental, c'était extrêmement bizarre. Pourquoi? Le ministre avait décrété, pour dire que non, les taux pour l'état académique s'est fixé à autour de 90 francs. Quand les autorités académiques se sont parvenues à organiser une certaine réunion comme ça, se sont dit non, on ne peut pas accepter ce que le ministre a dit, il faut faire ce que nous voulons faire. Ils ont fixé leur taux et les enfants ont commencé à payer. Après ça, vers la fin de la première session, on dit non, vous allez payer encore 50 000. Comme vous avez déjà payé à peu près 220 000, vous ajoutez encore 50 000, ce qui doit faire 270 000 à l'ISP de l'Ilai. Bon, ce comportement-là m'a beaucoup effrayé. C'est pourquoi je demande aux autorités qui sont sur place pour la sortie du gouvernement prochain, il faut qu'on nomme d'abord quelqu'un qui a une probité morale, quelqu'un qui a la voix d'autorité, pas quelqu'un qu'on peut manipuler par n'importe qui. Quelqu'un d'autre peut dire qu'il est professeur, il n'arrive pas toujours à mettre en pratique ce que les autorités disent.
C'est voilà. Donc pour vous, dans les perspectives à venir, il faut vraiment tenir compte des éléments qui doivent être pris en compte pour les profils d'un futur ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci beaucoup. Évariste, 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention directe.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Radio Capi vous convie à des balades dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le lundi à 14h15.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Nous poursuivons avec vous Marcel Ilunga-Léo, ministre par intérim à l'enseignement supérieur et universitaire. Vous venez de suivre Julien notamment qui évoquait tout à l'heure la problématique de la loi cadre de l'enseignement avec tout son contour. Et surtout, il a insisté beaucoup plus sur les contenus à mettre dans la matière pour arriver à améliorer la qualité de l'enseignement à RDC. Comment réagissez-vous, monsieur le ministre?
Merci beaucoup, Monsieur Gère. Je crois que vos auditeurs ont tout à fait raison. Tout ce qu'ils viennent de dénoncer là ne pourra trouver de solution qu'à travers l'application de la loi cadre de l'enseignement supérieur et universitaire. Parce que dans cette loi, il est prévu des solutions à tous ces problèmes qu'ils viennent déposer, y compris même l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'amélioration des conditions de vie et de tous les membres de la communauté universitaire. Il est prévu même, la réforme du système LMD pour l'adapter, adapter notre système éducatif au système tel que ça fonctionne à travers le monde entier. Donc, je crois que ils ont tout à fait raison. Nous devons absolument appliquer la loi cadre et nous allons trouver des solutions à beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de notre enseignement supérieur universitaire. Mmh. Et j'insiste encore, nous allons travailler davantage pour lutter contre les antivaleurs. Parce que ce sont les antivaleurs qui sont à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans toutes ces institutions universitaires. Et aussi pour que la qualité de l'enseignement puisse s'améliorer, nous devons comprendre que l'enseignement supérieur universitaire n'a jamais été gratuit à travers tout le monde entier. On ne peut pas faire de notre enseignement supérieur universitaire gratuit, comme ça a été le cas. Nous nous sommes retrouvés maintenant devant un problème de manque à gagner. Et pourtant, quand les étudiants payaient normalement, ces établissements-là pouvaient fonctionner, pouvaient faire venir les professeurs visiteurs, mais nous ne sommes sans pour autant dédouaner l'État congolais, qui doit en principe prendre des dispositions utiles de sorte que ces institutions-là puissent être dotées de moyens financiers et matériels nécessaires pour améliorer la qualité de notre enseignement. On doit mettre l'accent aussi sur la recherche. Comme vous le savez, sans la recherche, on ne peut pas avancer. Et c'est avec les institutions universitaires que nous devons absolument opérer toutes ces recherches, que ce soit dans les laboratoires ou que ce soit les recherches scientifiques et autres, pour développer notre enseignement et faire avancer notre pays. Donc je suis parfaitement d'accord avec
l'ensemble des auditeurs.
Oui, oui, mais tout cela trouvera la solution
dans la loi 4.
De la loi 4. Alors, on applique la loi 4, c'est fini, on va trouver une solution à tous ces problèmes.
Alors, vous avez dit que nos universités sont payantes, en tout cas, c'est pas gratuit. Malgré cela, elles sont quand même très pléthoriques, hein, passez-moi les termes. Et là aussi, il faudrait quand même, quand nous parlons en termes de l'accès à l'université, c'est comme s'il y a quand même une certaine légèreté. Mais la loi parlait plutôt de tests de placement qui devaient être rigoureux pour permettre à ce qu'on puisse déjà filtrer avant, pour ne pas avoir tout le monde à l'université.
Non, tout à fait, vous avez raison. Si on a institué ce texte, c'est pour sélectionner. En principe, l'université, ce n'est pas une école de masse. C'est pratiquement l'élite, la qualité. Mais on doit avoir des écoles professionnelles à gauche, à droite, pour permettre à tous ceux qui n'iront pas à l'université d'apprendre un métier et de devenir utile à la nation. Et aussi, ça doit être payant. Regardez, 920 pour 1 dollar. Et en fin de compte, nous sommes en train d'instituer la gratuité qui va, avec le temps, être à la base pratiquement de l'indiscipline et même des antivaleurs. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. On doit absolument améliorer la qualité, mais c'est à travers l'application
de la loi cadre.
Et nous allons trouver des solutions à tous ces problèmes.
Alors, Évariste, tout à l'heure, évoquait la situation qui a prévalu donc tout au long de cette année académique 2018-2019, notamment à Mbujimayi, où, au fait, la note, les instructions du ministre n'a pas été suivie à la lettre en termes de fixation des frais académiques. Est-ce que cette année, vous pensez que ça peut être quand même un défi pour les prochains ministres qui va prendre la tête de ce ministère?
Tout à fait. D'ailleurs, je crois d'ici là, les consultations vont commencer avec les parties prenantes pour sortir la note instruction 021 qui va recadrer pratiquement le fonctionnement et la gestion de ces institutions au courant de l'année académique 2019-2020. Et c'est tout à fait anormal quand le ministre a sorti ce document-là qu'il y ait encore d'autres établissements qui n'arrivent pas à respecter les termes de cette note. Et nous pensons que le nouveau gouvernement, le nouveau ministre, devra être attentif, devra ouvrir son téléphone, son numéro de mail pour qu'il puisse recevoir toutes les doléances à travers la République et prendre des dispositions utiles pour trouver des solutions à toutes ces questions qui seront posées à l'intérieur de notre pays.
Voilà, on va accueillir également professeur Rigobert Kabuit, qui est le secrétaire général académique de l'UPN. Il est avec nous. Professeur Rigobert, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un comité de gestion qui a remplacé au cours de cette année académique un autre qui a été, au fait, vomi par les étudiants et d'autres enseignants. Quels sont les défis que vous avez trouvés à l'UPEN? Je parle bien de l'UPEN, Université Pédagogique Nationale, et non Institut Pédagogique National, depuis un certain temps.
Bon, le premier défi, c'était des défis sociaux. Il fallait, nous avions eu comme mission, lorsque le ministre nous a indiqué que nous étions désormais aux commandes de l'université, la première mission était enfin de pacifier la communauté upénienne et puis de remettre l'ordre dans l'organisation des organes comme les facultés, les départements et les autres services qui aident l'université à fonctionner. Ensuite, les cours n'avaient pas démarré de manière sérieuse. Il fallait que toutes les promotions en fait mettent dans les auditoires et puis que les cours soient dispensés de manière à sécuriser tout le monde et à faciliter les déroulements de l'année académique, que au mois de juillet, c'est ce qui vient de se passer, nous puissions terminer le programme comme c'est prévu dans la 020 du ministère.
Alors aujourd'hui, si nous parlons en termes de l'accès à l'enseignement supérieur au niveau de l'IPEN, est-ce qu'on peut dire que le taux de l'accès est supérieur à l'année académique passée?
Oui, le taux est légèrement supérieur par rapport à l'année académique passée, mais comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est toujours le problème d'infrastructure qui se pose. Hein. La capacité d'accueil n'est pas équivalente au nombre des postulants, au nombre des candidats. Cette année, on fait en sorte que pour ceux qui vont être recrutés en classe de première année des graduats, on fait en sorte que justement que les locaux soient disponibles et que ceux qui viennent ne soient pas en fait dans de mauvaises conditions pour les études qui leur seront proposées.
Oui, parce que selon les informations à notre possession, il y a quand même des auditoires dans les classes de recrutement qui fonctionnent des jours pairs et d'autres des jours impairs. Parce que cette question, c'est les délestages-là, ça peut avoir un impact négatif sur la qualité même de l'enseignement.
Exactement. Un de nos projets, justement, c'est en fait de faire tel que nous puissions avoir des enseignements tous les jours et pour toutes les promotions, et que ce genre de délestage que vous indiquez ne soit plus d'application dans les années qui viennent. Et nous avons quelques projets de construction et quelques projets d'élargissement de locaux, mais aussi des projets de sélection, parce que en fait, comme je l'ai entendu dire, on ne doit pas accueillir tout le monde qui sollicite une candidature à l'inscription à l'université.
Alors, pour vous, quand vous observez l'avenir, qu'est-ce qui reste à faire, en tout cas sur toute l'étendue de la République, dans les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire? Est-ce que vous pensez que la solution se trouve dans l'application de la loi cadre de l'enseignement?
Oui, il y a l'application de la loi cadre, mais cette loi cadre doit être élargie. Je crois qu'il y a des propositions à faire de la part de ceux qui sont bénéficiaires de cet enseignement, les étudiants déjà, et de la part des formateurs que nous sommes, de manière telle que le ministère prenne en compte toutes ces propositions et que des orientations soient données, que cette loi cadre aide les universités à évoluer et à concurrencer d'autres universités du monde. Donc nos universités doivent se hisser à un niveau de modernisation telle qu'elle soit acceptable par d'autres universités et que d'ailleurs nos candidats qui finissent ici n'aient pas de problème lorsqu'ils se présentent à l'étranger et qui se présentent comme finalistes ou comme étudiants et étaient formés dans une université de la République démocratique du Congo.
Alors, quelles sont les dispositions prises par votre institution pour ne pas organiser la collation des grades académiques à la deuxième session?
C'est déjà annoncé d'ailleurs aux étudiants, ils le savent, et nous allons continuer à sensibiliser ces étudiants lors de ce que nous appelons la deuxième session, donc les examens de rattrapage au mois de septembre. Et nous allons faire aussi en sorte que l'année reprenne au mois d'octobre. Dès le 15 octobre, l'année va reprendre pour toutes les classes. Et que cette collation ne soit pas organisée autour de l'Université Pédagogique Nationale. S'il y a des étudiants qui vont fêter en famille parce qu'ils ont réussi en deuxième session, ça je crois que c'est pas interdit, mais il n'y aura pas des manifestations officielles organisé ni par l'université, ni par un groupe d'étudiants sortis de l'Université Pédagogique Nationale.
Alors si cela ne va pas vous gêner, et combien de professeurs sont comptés aujourd'hui à l'Université Pédagogique Nationale et combien d'assistants avez-vous et aussi des chefs de travaux?
Alors je peux vous dire avec plus ou moins de précision, nous avons pour un total des enseignants autour de 62 professeurs émérites, 128 professeurs ordinaires, 302 professeurs full et professeurs associés.
Pour une population étudiantine de combien à peu près?
Plus de 400 professeurs, 468 professeurs.
Voilà, merci beaucoup professeur Rigobert Kabuit, vous êtes secrétaire général académique à l'UPEN. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va poursuivre avec vous Olivier, vous êtes à Kikwit. Olivier, bonjour.
Oui, cher, bonjour et bonjour à tous les invités et aux auditeurs.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Ah oui, JR, je pense que les problèmes sont très très nombreux. Bon, je ne vais pas en parler tous, mais je commencerai par une chose. Voilà, en Grande-Bretagne, voici ce que dit la Constitution. Quand toute la société est corrompue, on fait des cours à l'université. Ça, c'est en Grande-Bretagne. Alors, chez nous, je ne sais pas si on peut appliquer ce principe-là, parce qu'en fait, les choses sont déjà renversées aujourd'hui. C'est à l'université qu'on trouve la corruption. Alors, je ne sais pas qui va sauver la société. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, pour parler de l'année qui vient de se terminer, je pense que, à mon humble avis, on ne devrait pas finir le 31 comme si l'année avait fonctionné normalement. C'est une année qui a été plus politique qu'autre chose. Nous avons vu le calendrier académique être modifié par des problèmes politiques. Il y a eu, je peux vous assurer, JR, que le ministre, là, il est témoin, il y a eu des nominations des comités de gestion qui ont été faites sur base de liens politiques avec certaines autorités. Ça, c'est les problèmes de l'année passée. Alors, les problèmes généraux sont les suivants. D'abord, je crois que le ministère a une très grande part de responsabilité parce que les instructions académiques qui sont envoyées toutes les années sont bafouées avec la complicité du ministère. Je vous donne un cas concret. Dans l'instruction de l'année passée, on a parlé et on a insisté, le ministère a souligné, pas de classe délocalisée. Ça signifie qu'on ne peut pas faire fonctionner des classes dans des localités où l'institution n'est pas implantée. Or, qu'est-ce que nous voyons? Et ça, c'est avec la complicité du ministère, parce que le ministère est informé. Nous voyons des classes délocalisées dans plusieurs institutions. Vous êtes à Kikwit, vous organisez une classe à Idiofa, à Gungu, je ne sais pas où, et le ministère est au courant et il ne fait rien. Alors, il y a d'autres problèmes. Nous avons les tests d'admission qu'on a toujours organisés, le ministre en a toujours parlé, et moi j'aimerais qu'on supprime cette affaire-là, parce que c'est plus une affaire de cupidité qu'une affaire de sélection. Donc, les comités de gestion aujourd'hui, un peu partout, se comportent exactement comme dans les mines de diamants où le seul vocabulaire, c'est l'argent. Et donc, je pense que le ministre, s'il parle d'amélioration de la qualité, je crois que nous devons tous appliquer la loi et je suis content que le ministre soit là parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment avec la bénédiction des ministères. Il y a un autre problème hier et je crois que le ministre, je vais lui demander de veiller très très bien sûr à ce problème-là. Nous connaissons des écoles où il y a des personnes engagées depuis plus de 2 ans, mais qui n'ont jamais œuvré dans ces écoles-là et qui se trouvent même en Europe. Ils sont à l'étranger, mais ils sont engagés sur le listing. Ils sont payés depuis 2 ans et le ministre est au courant. Alors, ces choses-là, comment voulez-vous qu'on puisse fonctionner si le ministre laisse passer beaucoup de choses anormales alors que nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs? Il a parlé d'antivaleurs tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, je suis très content. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui va se faire? Les écoles qui poussent comme des champignons. J'ai, ça, c'est la première catastrophe que nous devons supprimer.
Oui, des agréments qui sont octroyés.
Tous les 100 mètres.
Merci.
Dans une école.
Merci beaucoup. Supérieure. Merci beaucoup, Olivier. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va terminer avec vous, Jacques de Kisangani, et puis on revient à notre invité. Jacques, vous avez la parole. Vous pouvez placer aussi un mot dans ce débat. Jacques, vous êtes avec nous. Bonjour, Jacques.
Bonjour, monsieur le journal, c'est Jacques Motard depuis Kisangani.
Oui, rapidement, quel est votre avis?
Oui, vous soulignez plus sur le plan de l'enseignement universitaire, mais permettez-moi un peu de toucher le plan des écoles secondaires.
Oui, ce n'est pas le sujet du jour, Jacques. Vous risquerez de bouffer le temps inutilement.
Je propose ceci.
Oui, rapidement.
Parce que ce qui détruit l'enseignement aujourd'hui, c'est le problème de la corruption et aussi de la mentalité. Il faut qu'il y ait l'application stricte des tests de la loi Parce que s'il faut parler de l'âge, je vais directement le ministère.
Voilà, vous évoquez la question de la corruption. Notre invité l'a dit, des antivaleurs qu'on doit chercher à éradiquer dans le système de l'éducation. Et nous signalons également que c'est en marge d'ailleurs de la journée internationale de l'éducation qui est célébrée dans le monde le 7 août de chaque année. Donc c'est demain déjà, donc nous avons anticipé quand même les choses. Alors, monsieur le ministre, on va terminer avec vous. On va prendre la question d'Olivier qui parlait de cette problématique de la classe délocalisée et les impondérables politiques qui ont joué tout au long de cette année scolaire qui vient de se terminer et les problématiques de tests de placement qui doivent être bannis.
Oui, Gérard, je crois que votre auditeur est allé un peu plus loin pour rien. Quand le ministère sort une instruction académique, c'est pour l'appliquer. Et le ministère ne peut pas violer cette instruction en complicité avec les chefs d'établissement. Ça, c'est inadmissible et c'est même incroyable. Je pense que quand on interdit la délocalisation, bien la délocalisation des classes, ce sont les gens qui sont sur place qui doivent informer le ministère. Quand il y a un cas, pour que le ministère prenne des dispositions pour sanctionner. Je pense que l'année académique qui va commencer, le nouveau gouvernement, le nouveau ministre n'acceptera pas que la note d'instruction 021, qui sera confectionnée avec la complicité, avec l'intervention de tous les intervenants, puisse être encore violée. Il parle des engagements des gens qui touchent le salaire, mais qui sont en Europe, qui ne travaillent même pas. Mais il faut que ça soit dénoncé auprès du ministère pour qu'ils prennent les choses à main. Il parle également des écoles qui poussent partout, c'est vrai. Le fait que les écoles ou les instituts supérieurs doivent pousser partout n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faudrait que l'organisation matérielle, pour que ces établissements fonctionnent suivant les règles de l'art. Là, il n'y a aucun problème. Il parle également de la sélection complaisante. Ce sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je crois que cette année académique 2019-2020, les chefs d'établissement qui n'observeront pas la note d'instruction 021, ils ne prendront qu'à eux-mêmes, parce que le nouveau ministre qui sera là, qui va travailler dans la nouvelle vision du chef de l'État, fera de sorte qu'il à la lettre, la note d'instruction 21, ainsi que tous les textes qui régissent l'université ainsi que les autres instituts supérieurs.
Alors, reconnaissez-vous tout de même que des impondérables politiques ont joué quand même sur les calendriers? Parce que pour Olivier, en principe, ce n'est pas les 31 qu'on allait clôturer.
Non, en fait, je sais que l'année 2018-2019, c'était une année totalement politique, surtout avec l'organisation des élections, le 31 décembre 2018. Et c'est une année exceptionnelle parce qu'on a une situation pacifique du pouvoir entre deux chefs d'État. Mais ce qui est vrai, c'est que tous, malgré ces impondérables, ça n'a pas eu un impact significatif qui pouvait justifier la prolongation de l'année. Bien sûr, il peut y avoir quelques cas ci et là, mais pour lesquels nous avons autorisé la clôture pas au-delà de 10 jours. Mais dire qu'il y avait des impondérables qui pouvaient justifier la prolongation de l'année, il n'y en a pas eu. Là, je confirme parce que nous étions en train de suivre partout et on a senti qu'il n'y avait pas à prolonger l'année.
Marcel Ilunga Léo, ministre de l'Industrie et ministre par intérim à l'éducation, à l'enseignement supérieur et universitaire. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec les compatriotes congolais.
C'est moi qui vous remercie, Gérard.
C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous est pris pour demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.